danger, my little stranger, 'cause I feel you and you feel me. Give me the wave, my little DJ, 'cause you and me are on the way. In EAGJET FM, pour qui je suis honnête, écoute la barre, j'ai la fortune russe. Nous sommes donc aujourd'hui à la page russe 12-15, sommeil en différé. Donc là, on va parler du sommeil qui peut prendre une trajectoire qui, selon mes lectures, on va généraliser, a pris une trajectoire totalement différente pour des personnes. Il y en a qui ne se sont sûrement pas touchés par ça, mais... qui aurait été donc comme le sous-titre de ce livre que je vais vous donner quelques parties, « Comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits », un livre qui s'appelle, en grand titre principal, « La grande transformation du sommeil » par Roger Ekirk. Alors je vais commencer, n'est-ce pas, par « La société est maintenant davantage influencée par les faits de l'art et de la science. » Ok. Là, on comprend tous. « Que par les rêves et la superstition. » La société, c'est normal. C'est normal qu'elle soit plus influencée par l'art et par la science, parce que c'est ce qui est sur les écrans. C'est ce que les écrans, ou dans les musées, visible en tout cas. C'est ce qui a pris, avec le modernisme, comme on a pu en parler hier dans la page précédente, qui était l'un tout, la société, donc c'est la science a pris la place des rêves, quoi. Les singularités, afin d'effacer les singularités de chacun, pour que tout le monde soit identique et qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Même si c'est pas possible. Mais bon, à force, ils vont y arriver. Hein. Non, mais il faut dire que oui, quoi, pour qu'ils arrêtent. En tout cas, le haut modernisme, les grands patrons du monde. À la différence d'autres cultures non occidentales qui ont institutionnalisé leurs rêves, l'intelligence que nous avons de nos visions nocturnes a progressivement décru, et avec elle une meilleure compréhension de nos pulsions et émotions les plus intimes. Quand bien même les rêves ne seraient pas la voie royale permettant d'accéder à l'inconscient, comme Freud le postulait, tatatitatata. C'est en cela que consiste très probablement la plus grande perte occasionnée par le fait d'avoir été, selon une formule de Thomas Middleton, privé de notre premier sommeil et dépouillé de nos rêves et de nos fantasmes. Privé de notre premier sommeil et dépouillé de nos rêves et de nos fantasmes. Ça fait beaucoup de « et », hein. Ouais. Car nous étions constitués, notre inconscient constitué néanmoins de... d'innombrables chemins d'accès privilégiés à la conscience de soi, un chemin certes sinueux, mais assurément fréquenté. Voilà l'humanité, qui comme on vient de le lire, diminue. On n'a plus ça. Il y a quelque ironie à ce que la technologie contemporaine, en transformant la nuit en jour, et contribuer à obstruer une des plus anciennes voies d'accès au psychisme humain. Et ce, alors même qu'elle permet d'explorer les tréfonds du cerveau. d'écouter Lonesome Road from Most Things Haven't Worked Out by Junior Kimberoo. Yes, it is, my baby. Donc, route seule, la solitude de la route, depuis des choses qui ne marchent pas. Donc, qui n'ont pas marché. En fait, quand rien ne va, c'est la solitude du voyage qui peut être sauveur, rédempteur. Donc plus loin toujours dans le livre que je vous disais là, La grande transformation du sommeil de Roger Ecker, que on va continuer. Alors à l'orée du 19e siècle, les familles nanties n'avaient jamais aussi bien dormi, du fait non seulement des améliorations de la construction des maisons et des systèmes de chauffage, mais aussi des soins médicaux, avec notamment la diffusion de l'usage de l'aspirine, de la morphine et d'autres analgésiques modernes. Les sorcières et les fantômes ne faisaient plus peur. Et les risques d'incendie, le plus terrible de tous les périodes nocturnes avant le 19e siècle, avaient été considérablement réduits. En 1922, un médecin exprimait dans l'Aberdeen Journal son scepticisme devant le supposé déclin de la qualité du sommeil humain et le lien établi entre la fréquence accrue des insomnies et le rythme effréné de la vie. Donc, si on met ça aujourd'hui, si tu n'arrives pas à dormir, c'est que tu as une angoisse dans ton travail ou dans ta vie. Je continue. C'est tout le contraire, faisait-il remarquer. Si l'on tient compte de tous les avantages de la modernité, comme l'amélioration des conditions hygiéniques qui tranchaient avec de les nombreuses choses qui dérangeaient nos aïeux. Manifestement, tous les experts médicaux ne partageaient pas l'inquiétude de leurs collègues au sujet de l'insomnie. Dès les années 1890, une minorité influente préconisait dans ce domaine la retenue et la prudence. Un médecin écossais renommé, Macfarlane, recommandait à ses patients, en cas de réveil nocturne, de se lever à un extraterrestre, de se lever un court moment. Ça, c'est vrai, moi, ça m'arrive des fois, pour atténuer leur anxiété. Une lecture, bah, tu sais, tu te réveilles dans la nuit. Et tu te lèves et tu vas te coucher sur le sofa ou sur le canapé ou sur le tapis, quoi, tu vois, et tu te rendors. Moi, ça marche bien, en tout cas. Une lecture facile, etc. Les lectures aussi, tu peux lire. Parmi les sceptiques, l'idée que l'anxiété avait des effets insidieux faisait consensus. Un médecin faisait ainsi remarquer dans le magazine Good Housekeeping. À n'en point douter, de nombreuses personnes souffrent d'insomnie. Ouais. Parce qu'une heure ou même 10 minutes semble un très long temps au milieu de la nuit, ça c'est vrai, l'anxiété, en s'auto-entretenant, on ne peut qu'accroître l'éveil. Mais l'anxiété, il parle donc que d'anxiété, mais il n'y a pas que ça. Hein. Moi, personnellement, ça m'arrive de me réveiller souvent dans la nuit. Il suffit que je pense à... Des fois, je me rendors tout de suite, mais d'autres moments, je me mets à penser à un truc, mais c'est pas... Je pense pas que c'est de l'angoisse, que je suis anxieux, ou... Non! Je suis pas assez fatigué, quoi. Peut-être. C'est peut-être aussi simple que ça. Quant au lien postulé entre l'insomnie et les réveils nocturnes... Sans reprendre la terminologie employée par les générations passées, notamment l'expression de premier sommeil et de second sommeil, Walsh critiquait les autres médecins qui, selon lui, stigmatisaient leurs patients en qualifiant leur réveil nocturne d'insomnie. Mais non, en fait, c'est ça. Il était dit que c'était des insomnies, alors qu'en fait, non, c'était le premier sommeil et le second sommeil. Les patients, écrivait-il, doivent être autant que possible soulagés de leur inquiétude. Ouais, et c'est pour ça qu'on est venu à prendre des drogues. À donner, proposer des trucs pour dormir, quoi. Un mec qui prenait de la morphine, de l'alcool aussi. Un petit coup de ponche là avant de dormir. Ah non, de Dieu, moi je vais te dire, ça marche bien ça. L'état du patient devrait tout simplement être appelé éveil nocturne. Ça, c'est juste. Parce que dans la nuit, il peut, tu sais, quand tu prends pas de drogue somnifère ou des trucs comme ça pour t'endormir. D'ailleurs, quand je prenais de l'alcool des fois, un peu avant de dormir, avant que mon épilepsie devienne enfin maintenant je peux plus boire d'alcool du tout. J'arrive pas à dormir quoi, et je suis pas le seul, hein. Les gens, y a, même qui sont pas épileptiques, ils arrivent pas à dormir. Après, ils prennent quand t'es pas habitué à boire de l'alcool, là, tu passes une mauvaise nuit après quoi. Donc, mais donc sans alcool, c'est tu te réveilles dans la nuit, c'est un éveil quoi. Il y a, tu en fait, tu es réveillé dans la nuit parce que on t'appelle quoi, on te contacte, on dit, il faut que tu te réveilles parce que j'ai un truc à te dire. Donc, il faut ouvrir ses chakras. Il faut ouvrir sa conscience à l'inconscient et recevoir les meilleurs. Ouais, c'est pas mal ça. Ça se trouve, c'est les extraterrestres qui veulent, les esprits qui veulent te parler. De nombreuses personnes qui se réveillent après 5 heures de sommeil s'apercevront que si elles ne se montrent pas impatientes de se rendormir et qu'elles invitent tranquillement le sommeil, elles tomberont bien souvent de sommeil naturellement et sans difficulté pour 2 ou 3 heures supplémentaires. Sauf que ça, c'est vrai. Mais quand ça arrive, alors admettons, tu te couches, tu t'endors à 10 heures. Donc plus 5, ça fait 10. 11, 12, 1, 2, 3, tu travailles à 3 heures. Et donc tu vas peut-être te rendormir pour 3 heures, mais tu te rendors à 3 heures, il est 4 heures du mat. Une heure, le temps que ça se mette en place, quoi. Une heure du mat, mais sauf que s'il faut que tu te lèves à 7 heures, ben, c'est pas cool. Donc tu vois, tu te rendors, mais par contre il est vrai que ce second sommeil est bien plus fort en repos. Je sais pas si vous arrive de faire des siestes, moi ça m'arrive de temps, des fois tu dors mais 5 ou 10 minutes, mais oh la vache, c'est comme si tu avais fait une nuit complète quoi. Et ça c'est magique, hein. Ouais. Moi, je trouve. Aussi, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu peux manger un petit truc. Ça te permet de te rendormir, tu sais, c'est comme les siestes, quoi. Après manger, tu te fais une petite sieste, et là, c'est vraiment bon, parce que si tu essaies de faire une sieste avec le ventre creux, tu n'arrives pas à faire de sieste. Il faut que tu sois un peu rassasié. Bien sûr, à cette époque, l'expression « second sommeil » avait perdu son sens originel, donc au 19e, pour adopter une nouvelle connotation. Elle ne désignait plus alors une des séquences naturelles du sommeil, mais bien plutôt l'une des phases d'un sommeil discontinu jugé indésirable. Eh bien voilà, la connerie a commencé ici. Bah oui, parce que tu travailles, tu te dis « Oh non, mais je peux pas, j'ai mal dormi. » Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. Si tu te réveilles, c'est quand tu fais rien que tu peux te rendormir 3 heures, mais des fois t'as pas le temps de te rendormir 3 heures, quoi. Même si le sommeil est bien, bien plus profond, ça il n'en parle pas dans ce livre, par exemple. Ce serait aussi se méprendre que de conclure que l'insomnie de milieu de nuit est identique à son prédécesseur de l'âge pré-industriel, si elle était possible une analyse clinique rigoureuse qui comparerait, par exemple, la production hormonale, la température corporelle, l'heure du coucher, les alternances de sommeil, REM et non REM, donc Rapid Eye Movement, je crois que c'est ça, indiquerait probablement une correspondance imparfaite entre la période d'éveil de l'époque pré-industrielle et l'insomnie de milieu de nuit de l'époque contemporaine. Bah oui, on n'a pas du tout les mêmes genres de vie, quoi. C'est ce que je viens d'expliquer, quoi. Étant donné les profonds changements en matière de technologie, de mœurs, de régime alimentaire, de cadre environnemental et d'activité économique, il serait très surprenant de découvrir entre eux une plus grande similarité. Il en parle un peu quand même. Il est même possible que dans certains cas, il n'y ait aucune ressemblance entre eux, ce qui revient à reconnaître que tous les cas de réveil au milieu de nuit ne peuvent pas être rattachés, même imparfaitement, à la structure ancienne du sommeil. Donc il dit des conneries, quoi. Il dit lui-même qu'il dit des conneries. Alors, pour le dire autrement, il ne fait aucun doute que dans les foyers de l'époque pré-industrielle, qu'il y a eu des sommeils nocturnes inexplicables, non suivis d'un second sommeil. Bon, c'est dommage. même si la chose n'était pas fréquente. Réciproquement, dans certains cas, la survenue de réveils nocturnes, dont il n'était pas possible. Bon, voilà, c'est bon, j'en ai un peu ras le bol de lire des trucs comme ça. Les personnes qui, d'une façon comparable à leurs ancêtres, font aujourd'hui encore l'expérience d'un sommeil segmenté en deux périodes séparées par un intervalle de veille. Ouais, mais l'intervalle de veille, il faut se méfier de ne pas penser à quelque chose qui va t'emmener une anxiété, quoi. Ouais, il faut penser à rien, quoi. Enfin, tu dis à quoi? Mais c'est la période d'éveil. Donc, les extraterrestres, ils essaient peut-être pas de taper toutes les nuits, mais bon. Mais oui, c'est peut-être aussi un moment où se recentrer sur soi, quoi. Certaines personnes sujettes à des réveils nocturnes ont peut-être un rythme circadien particulièrement fort, si fort qu'elles semblent ne pas être affectées par les effets de la lumière artificielle. Ouais. Le sommeil constitue des effets de la lumière artificielle. Réciproquement, il n'est pas déraisonnable d'imaginer que l'abandon du sommeil segmenté, qui a été très probablement la forme dominante de sommeil depuis des temps immémoriaux, nécessitera plus d'un ou même deux siècles pour s'imposer. Tout à fait. Sans parler des conséquences psychologiques qu'il y a à être considéré comme anormal. Perçu à travers le prisme privilégié de l'histoire, il est possible que le sommeil apparaisse non pas comme le produit d'une maladie inexplicable, mais tout simplement comme une chose naturelle. Bah oui. Il faut dormir. Maintenant, on va passer à la postface, donc à la fin. Ce faisant, ils manifestent la puissance des forces qui travaillent à dissimuler leur propre histoire aux humains que nous sommes. Le problème est plutôt que les intérêts économiques des représentations collectives et des idéologies scientifiques ont convergé pour faire obstacle à notre connaissance de ces histoires. Ces forces sont encore à l'œuvre. Tant parce qu'elles servent les intérêts de l'industrie du sommeil et de la veille, que du fait des traditions aujourd'hui anciennes associées au sommeil nocturne d'un bloc. Les découvertes d'Ekirk, donc l'auteur du livre que je viens de vous lire un peu, contribuent à montrer ce qu'était le sommeil et ce qu'il pourrait être, et elles nous apprennent tout ce que notre attention collective à des histoires dormant aujourd'hui dans l'ombre peut avoir à gagner de l'examen minutieux de références curieuses et apparemment sans intérêt à des phénomènes comme le premier et le second sommeil. En tant qu'historien, j'ai appris d'Ekirk que la curiosité doit être en première ligne pour lutter contre les tendances à la reproduction dans l'étude et le décryptage des documents historiques. En tant que dormeur, j'ai appris d'Ekirk que le sommeil que nous avons perdu peut être regagné et qu'en mettant en évidence une plus grande diversité d'expressions de la biologie humaine, nous travaillons à rendre plus humaine notre expérience quotidienne. Et donc là, il ne le dit pas comme... Enfin, moi, je dirais d'une autre façon. Je dirais qu'en fait, par rapport aussi à la barre joueuse d'hier, l'un tout... le rôle de la phénoménologie dans les rêves. Parce que, avec la société actuelle, le modernisme, on a mis à l'écart les rêves. On ne veut plus entendre parler de tout ça. La société est faite sur l'art et la science, comme je disais au début. Mais c'est. Pourtant, là, c'est une preuve encore de ce que j'avance sans arrêt. C'est le côté invisible. Dans le côté invisible, il y a notre vraie force, notre vraie présence. Donc, qui fasse les fanfarons, Poutine et Musk et Trump et machin et truc, mais qu'il le fasse. Et c'est pour ça que, de mon côté, je suis très confiant. Ça empêche pas toutes les ça empêche ça enlève pas du tout tout ce qui a pu se passer hein, dans toute l'histoire de la planète pour arriver jusqu'où on est aujourd'hui. En tout cas, cela se disant, je suis très confiant pour l'avenir. Est-ce que en 1930, j'aurais dit la même chose? Peut-être que oui. J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, je le dis. Est-ce que ça va continuer? Oui, non, non, oui. Mais j'en sais rien, moi. Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles là? Alors, je me suis calmé, on a écouté That's Alright, une interprétation de Ike Turner. Donc, je disais oui, que le côté invisible était pour moi vraiment plein d'objectivisme, de positif, qui regarde, mais qui ne prend pas parti de l'amnésie qui est. Partout, sur toutes les personnes et qui remplace, qui a remplacé le côté invisible et ses rêves. Pour ça, j'ai lu La machine à l'indifférence, une nouvelle japonaise, et il y a d'autres nouvelles, mais je ne les ai pas toutes lues encore. Et pourquoi sommeil en différé, le nom de la barge russe? Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on va essayer de mettre en différé le sommeil. Parce que. On dort, disons, on est maintenant. Si, je sais pourquoi j'ai choisi ça, ce titre, c'est quand nous sommes amnésiques, enfin, la plupart des personnes sont amnésiques, et on sont amnésiques, donc là, on peut dire qu'elles dorment. Elles ne sont pas. Enfin, elles dorment pas, mais elles sont dans le coma, quoi, tu vois, dans la journée. Elle ne voit pas, elle ne se pose pas de questions, elle ne voit rien. Elles n'ont pas de discussion, elles n'ont rien à dire. Donc, et c'est la nuit qu'en réalité, elles sont les personnes elles-mêmes. Elles deviennent donc des machines à indifférence. Les machines désirantes sont au contraire celles, les autres personnes qui se posent des questions, qui veulent des choses. Enfin, c'est pas du tout deleuzien, c'est pas du tout la machine désirante deleuzienne. Bon, c'est peut-être pas ça que j'aurais, c'est peut-être pas cette machine que j'aurais dû, dont j'aurais dû parler, mais. Le sommeil en différé, ou l'illustration de la machine à indifférence. Les visions du côté invisible, transmises au cours de la nuit, du repos, entraînent la différence existante dans le tout qui est fait de l'un et inversement. Avant de continuer, entre deux segments de sommeil, donc, je vais vous lire des passages de la machine à indifférence, mais justement, spécialement pour cette chronique, un petit peu à la façon dont William Burroughs pourrait préparer un livre en cut-up. C'est-à-dire que je vais prendre des morceaux en live, comme ça, ouais, non mais comme ça, direct. Et là, on va, à partir de là, on va comprendre ce qu'on veut. On va réorganiser le temps dont il est nécessaire. Tous ceux qui sont passés par la machine à indifférence ont quitté la ville. Pauvre gosse, ce n'est pas grand-chose, mais tiens. J'enfonçais le clou. Je n'étais plus qu'un enfant qui refusait d'entendre raison. Je ne comprenais pas. Je ne m'étais jamais disputé avec ma mère. Un peu avec ma sœur, souvent avec mon père, mais pas de là à finir en guerre. Les gens commencent par du bénévolat le dimanche, trient les ordures, vont voir un psy tous les mois, participent régulièrement à des forums de consommateurs et diverses autres conférences, et finissent par utiliser la machine à indifférence. C'est-à-dire, la machine à indifférence, c'est pour. Ça correspond en plus à Thierry Paco. Enfin, c'est des trucs tu vois, qui doivent t'empêcher de haïr, donc arrêter la guerre, mais en réalité, ça te illibéralisme, si tu veux. Ça te met aux ordres du grand pouvoir, quoi. Enfin, du grand pouvoir du trois cons. Conditionnement, contrôle, conditionnement. Ou encore du haut modernisme. Du cannabis. On en mâchait souvent quelques feuilles sur le champ de bataille. Grâce à elles, on entrait dans un état second qui nous empêchait de réfléchir. Désolé pour le bazar, s'excusa le médecin avant de continuer. Il y avait même des chiens qui erraient dans les chambres et les couloirs, il y a 3 jours. Et je lis dans le désordre, là, hein? Vous n'avez pas remarqué, hein? Mais pourtant, leur affreuse machine qui ressemblait à des assiettes sur lesquelles on aurait posé un ventilateur flottait au-dessus des rues marchandes. Je parviens au sommet de la colline, laissant derrière moi une vingtaine de corps sans vie. C'était la première phrase de la nouvelle, de la machine à indifférence. Voilà, c'est donc le. Pourtant, là, j'ai tout compris. C'est une organisation spécifique qui peut aussi se contracter, se réaliser plutôt, dans la réalité. Maintenant. Le sommeil en différé, le nom de la barge russe, la réalité du tout et de l'un, indifférent, de la modernité, nous rend agressifs, présomptueux, mauvais, méchants, des consommants hors contrôle, autoconditionnés. Donc, l'âge industriel. Maintenant, c'est plus vraiment ça, post-industriel, je ne sais quoi. Mais c'est fait, quoi. On est déjà, depuis longtemps, conditionné par la société. Et ben, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Ben, tu regardes un exemple tout con, les films. Pour la plupart des personnes, tu vas, ça va être ça. Enfin, même pas. Enfin, que ce soit un truc, un film d'action ou non, un film, une cucu ou non, il y aura toujours une chose qui va, de la modernité, par ici, j'entends quelqu'un qui va être rendu agressif, qui va être mauvais, méchant, qui va entraîner quelque chose. Et, mais sans arrêt, que ce soit. Ouais. Dans une relation amoureuse, ça va être de la jalousie ou ça va pas être des plans cucu. Ben ça va être rendu inintéressant. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et cette chose sera d'origine. L'origine qui fait de nous des êtres humains. Des êtres humains, des consommants hors contrôle. Pas contrôlables. Auto-conditionné, on sera même auto-conditionné par le fait de rejeter nos rêves, rejeter les rêves. Et si les rêves sont tels qu'ils existent, qu'on peut s'en passer, on peut dire oh, je rêve pas, machin. Si c'est comme ça, c'est parce que c'est que ça doit être comme ça. C'est inexplicable. Donc j'oubliais une chose et je suis tombé dessus en allant avant de boucler le montage de cette émission qui est le sommeil en différé, l'art de la sieste. Donc bon, je vais faire ma course et je vais chercher mes enfants plutôt, ma fille pour déjeuner et là je m'arrête au shampoing d'avance dans une bouquinerie et je trouve l'art de la sieste par Thierry Pacaud. Thierry Pacaud, avec qui je me suis déjà entretenu, sur l'urbanisme. On a échangé aussi une autre fois, c'était sur Ballard. Il a écrit sur Ballard beaucoup de livres sur l'urbanisme. Et là, je découvre l'art de la sieste par Thierry Pacaud. Donc ça ne pouvait pas tomber mieux, en réalité. Alors, un essai très très court, petit format, 80 pages, très très bon. Et donc, avant de me dire, bon, je lis le truc, après je fais ce que j'ai à faire, et je reviens, et tiens, bah, je vais faire ce qu'il a dit, même si je suis pas. J'ai déjà fait la sieste, je fais la sieste des fois, mais je vais quand même la refaire exprès pour voir vraiment ressentir ce que je viens de lire. Et vraiment, bon, je sentais bien qu'il avait tout bon dans ce qu'il disait, mais là, c'est vrai, là, c'est du vécu direct, disons. Donc, je vais commencer par une espèce, dans son préambule, il introduit un peu la sieste, ce qui est un impératif. Elle s'impose à vous plus qu'elle ne vous sollicite. Elle est là, séduisante, aguicheuse, tendre, en un mot, irrésistible. Elle vous entoure de sa chaleur, vous cajole, vous câline. Vous la suivez aveuglément. Vos yeux se ferment malgré vous. Vous vous détendez progressivement, votre corps, qui un instant plus tôt vous encombrait quelque peu, semble léger, invisible, inexistant. Le bonheur vous assaille. Et plus bas, vous vous laissez faire, vous vous laissez aller, et avec étonnement, vous vous abandonnez. À qui? Un nouveau maître? Une maîtresse? Petit cachotier? Une liaison interdite à cacher? Oui, nos relations que la morale productiviste réprouve. Avec la nuit en plein jour, avec hypnose, la sieste consiste à pactiser avec le sommeil diurne, à lui rendre hommage, en faisant une halte en sa compagnie, en laissant la porte ouverte à la rêverie, siester est un bienfait. Et pour continuer, le sommeil en différé, le nom de cette barge russe, le repos suit le repas tel qu'il l'écrit, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi. Non, il n'y a pas de hasard. La sieste est comme une reprise de souffle, un moment nécessaire pour récupérer ses forces et esprit. Et maintenant, on va écouter God is God par Laibach. Je vais directement passer au chapitre 3, quoique tout le reste soit super intéressant, mais c'est à lire seul, quoi, c'est intéressant. Donc, selon l'historien américain, alors bon, je rappelle Thierry Paco, lui, il est vraiment dans le contrôle aussi, quoi, avec Ballard, enfin, c'est excellent, j'adore ce qu'il écrit, ce qu'il fait. Selon l'historien américain des techniques, Lewis Mumford, la machine clé de l'âge industriel moderne, ce n'est pas la machine à vapeur, c'est l'horloge. Ce qui assigne une autre chronologie au capitalisme, l'horloge mécanique. Au cours des XIIIe et XIVe siècles, dans les villes importantes de la chrétienté, succède à la clepsydre. Vous voyez, comme dans Fort Boyard. C'est ça, une clepsydre.
du latin clepsydra, traduction du grec clepsoudra, voleuse d'eau, horloge hydraulique. Et bien que non encore équipée d'un cadran et aiguille, elle possède une cloche qui sonne toutes les heures. La régularité du temps qui passe impose progressivement une discipline des rythmes humains et règle les horaires du travail. C'est vraisemblablement vers 1345 que la division en 60 minutes des heures et en 60 secondes des minutes se répand parmi les classes dirigeantes urbaines, transformant le temps de chacun accordé à son rythme cardiaque, à son souffle, à ses activités, etc., en un temps homogène et abstrait. La référence d'un temps pour tous, quand on considère, constate Lewis Mumford, le jour comme un laps de temps abstrait, utilisable, on ne va pas se coucher avec les poules des soirs d'hiver. Quand on pense au temps, non comme une succession d'expériences, mais comme une collection d'heures, minutes, secondes, on prend l'habitude de l'augmenter ou de l'épargner. Fin de citation. Se libérant des cycles naturels, le jour et la nuit, les saisons, les temps et la vie, le citadin se soumit au temps contraint, décidé par l'implacable automate, en quelques siècles, l'horloge. Et c'est, tu vois, si on pense ce que je disais en début de barge, l'horloge qui si dans ta nuit tu fais pas tes tu dors mal dans le temps que tu t'impartis pour dormir, enfin que tu te donnes pour dormir, si tu dors mal, bah, y a une raison. Comme je disais, ça peut être un appel, ça peut être aussi parce que tu t'es pas assez fatigué, parce que tu as bu de l'alcool, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas à se dérégler la tête en se droguant ou en buvant de l'alcool parce qu'on dort mal. Il y a la sieste. Il le dit, Monsieur Paco, je ne sais pas où, je ne sais pas si je l'ai souligné. Et là, après, la sieste est mal aimée des sciences humaines et sociales. Il en va... Il en va de même des économistes. Alors, aucun calcul à l'échelle macroéconomique pour les économistes, n'a été réalisé pour mesurer ses effets. Chiffrer le manque à gagner ou le plus à gagner de ce temps hors travail, hors économie, mais qui rétroagit sur le travail et sur l'économie générale de la société. Parce que, comme il le dit, je ne sais pas si... Ouais, je vous le dirai après. C'est bon, quoi, de se reposer et de travailler positivement, objectivement. Non. Imaginez un patron astucieux, s'il en existe, il écrit, qui vous laisse établir vous-même votre emploi du temps, et ce, de façon libérale, vous disant même, mon ami, n'oubliez pas de faire une petite sieste, c'est bon pour la décontraction, sachant que vous en serez plus productif. Gare à la manipulation, gare à la confiscation vicieuse, à l'aliénation perverse. Quoi ? Il récupère ma sieste, l'intègre dans sa comptabilité analytique d'exploitation, démontre à ses pairs la justesse de ses calculs, en fait l'apologie, court les séminaires internationaux, dépose au Parlement un projet de loi sur les chèques sieste. L'urbanisation de la nouvelle géographie qu'elle dessine rend souvent impraticable la sieste. Bah oui, les quotidiens, quand tu bosses, c'est pas facile. Hein. Donc il parle du Manhattan transfert. Oui, par rapport. Alors, Dos Passos, donc l'auteur de Manhattan Transfer, montre bien la simultanéité des temporalités urbaines et comment chacun s'y positionne. Un piéton peut toujours marcher à contre-temps de la foule, de même un flâneur peut se donner l'apparence d'un homme pressé allant à un rendez-vous en cherchant le bon chemin pour s'y rendre alors qu'il ne perd pas une miette du spectacle de la ville. La grande ville où tout fonctionne de manière automatique s'accommode finalement assez bien des transgressions. Manhattan Transfer qui est écrit d'une façon où justement tout coule, tout justement, comme il est écrit, quel mot est employé c'est flottant, quoi. Voilà. C'est tout. Tout se fait comme ça, parce que ça doit se faire. Il n'y a pas de...
il y a une réorganisation s'établit lors des siestes, une réorganisation psychique et même nécessaire. Le mot liberté n'a vraiment de sens qu'avec le contrôle par chacun de son temps. Ça, c'est, à mes yeux, c'est juste, quoi. C'est totalement ça. La libre disposition de son temps est la garantie de son autonomie. Cette individualisation du temps ne consiste pas en un acte d'incivisme, en un refus de respecter les règles que toute vie en société édicte, en un mépris d'autrui, en un repli sur son petit confort personnel, mais au contraire en une volonté d'être dans son temps, afin d'assurer sa présence au monde avec et parmi les autres. La disponibilité, l'écoute, l'attention ne sont pas des attitudes spontanées et régulières. Elles sont d'autant plus denses qu'elles alternent avec des pauses, des haltes, des silences, de la même manière que notre sommeil connaît plusieurs phases. Notre activité est cyclique. Notre activité est cyclique. En avoir conscience, eh bien, faire ce qu'il faut pour en valoriser les manifestations est un travail, celui de soi sur soi, pour entrer en relation avec autrui. Bonne sieste. Sous-titrage Société Radio-Canada.